Bonsoir à toutes et à tous, c'est Iris du Geek Squadron et ce soir je reçois Céline. Alors, c'est étrange quand même de recevoir sa propre co-animatrice de podcast, mais parce que vous connaissiez Céline, la podcasteur, mais vous ne connaissiez pas Céline, l'astrophysicienne, qui va nous parler aujourd'hui de l'IAC, l'International Astronomical Congress, qui s'est déroulé à Paris la semaine dernière. Alors Céline, si tu nous expliquais un petit peu qu'est-ce que c'est que ce congrès justement spatial.
Oui, alors l'IAC, c'est vraiment la grande messe du spatial. Donc moi qui suis une petite mordue, j'ai voulu en profiter. Donc pour les geeks comme nous, on va dire que c'est un peu le Star Wars célébration du spatial. C'est un congrès qui réunit chaque année les entreprises, les institutions public du spatial, les lanceurs, les satellitiers, et puis aussi d'autres entreprises qui tournent autour du spatial. Et c'est aussi là qu'on a en général les grosses annonces chaque année. Par exemple, une annonce qui avait fait pas mal de bruit, c'est celle en 2016 d'Elon Musk qui avait dit qu'il lançait son programme vers Mars. Vous en avez peut-être entendu parler à l'époque. Voilà. Et cette année, une des grosses annonces, c'est Suzy, qui est un nouveau module pour un étage pour Ariane 6 qui peut abriter en fait des astronautes ou être automatique. Voilà. Et alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'était à Paris, déjà, c'est rarement à Paris, en fait. Si on regarde, c'est vraiment dans le monde entier. L'année prochaine, par exemple, c'est en Azerbaïdjan. L'année d'après, c'est à Milan. Voilà, ça tourne dans le monde entier.
Comme les Celebrations, enfin, presque.
Un peu plus que les Celebrations.
Bon, c'est pas difficile de tourner plus que les Celebrations, en vérité.
Ouais, mais disons qu'il y a plus d'acteurs internationaux dans le spatial que dans Star Wars. C'est facile à faire aussi. Mm-hmm. Et en plus, cette année, le thème, parce que chaque année, il y a un petit thème aussi associé à l'IAC, c'était « Space for All », donc l'espace pour tout le monde. Du coup, ils ont fait une session publique. Donc, j'ai pas pu résister, me faire une petite journée de conférence sur le spatial. C'était vraiment super tentant.
Donc ça, c'était la journée de mercredi 21, où effectivement, c'était la journée ouverte au grand public, puisque jusque-là, si j'ai bien compris, hein, toutes les journées étaient plutôt réservées aux professionnels, sur inscription, etc. Là, c'était une entrée gratuite, il suffisait de s'inscrire sur le site pour pouvoir y avoir accès. Et donc, notamment le côté Space for All, ça a permis d'avoir pas mal de conférences qui sont accessibles pour le plus grand public, hein. On n'a pas besoin non plus d'avoir un doctorat pour réussir à suivre ces conférences. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de choses de fait avec des astronautes français, qu'ils soient d'anciens astronautes, hein, des noms qui ont résonné dans notre jeunesse, comme Claudie Aigneret, ou des astronautes qui sont plus les héros d'aujourd'hui, enfin, les héros de nos enfants, on va dire, hein, comme Thomas Pesquet. Alors, qu'est-ce que tu as pu suivre, toi, Céline, de ces conférences?
Alors, en effet, il y avait des astronautes pratiquement à toutes les conférences. Il y en avait au moins un. Donc, en fait, quand je suis arrivée, après, j'étais captive. C'était impossible que je m'en aille. Non, c'était vraiment
super. C'est du bon boulot de la part des organisateurs.
ouais, ils ont vraiment fait ça super bien. Je suis arrivée à 11h30 pour Thomas Pesquet, qui faisait une question, une séance de questions-réponses. En fait, il a commencé à reparler un petit peu de sa mission, comment ça se passait, comment c'était le vol, les deux vols qu'il a fait, le fait qu'il a commandé la, la deuxième. Il a reparlé un petit peu de la vie là-haut, le fait qu'il y a 2h30 de sport parce qu'il y a toute une perte due à l'impesanteur de muscles, d'os. Donc, il y a beaucoup de maintenance de l'ISS et de la maintenance du corps. Qu'ils arrivent une fois par semaine à manger tous ensemble autour de la table. Voilà, il a dit aussi qu'il faisait beaucoup d'expériences. Il nous a dit qu'il y a 232 expériences en cours en 6 mois. Pour nous donner une idée, voilà. Bon, il y en a où j'imagine c'est 5 minutes par jour, puis il y en a, ça doit prendre beaucoup plus de temps. Donc il dit, voilà, il y a de la neurologie, il y a de la biologie, de la physique. Il y a des fois, il y a des choses qu'ils font pour préparer aussi l'exploration, préparer les missions sur Mars. Par exemple, ils ont fait pousser des petits piments. Donc, il me disait qu'il était super content parce qu'il l'avait autorisé à en manger. Enfin, voilà. Il nous a vraiment parlé de sa mission. C'est un très bon orateur, Thomas Pesquet. C'était vraiment très agréable.
Oui, et après, on partageait avec le public. Enfin, on a pu le suivre sur Twitter pendant ses missions. C'était quand même. Tu sens qu'il fait ça parce qu'il aime partager. En fait, il est là-haut, il se rend compte de la chance de dingue qu'il a et il a envie de partager ça avec le monde entier. C'est assez chouette. Hein.
Mais il en a parlé. Il disait qu'en fait. Avant de se coucher pendant 2 heures, il prenait tout le temps du temps pour aller regarder les réseaux sociaux, répondre aux gens. Enfin voilà, même là-haut, quoi. C'est assez fou. On se dit que voilà, c'est exceptionnel d'avoir pris ce temps. C'est pas étonnant qu'il soit aussi populaire. Enfin, moi, je trouve que ça a vraiment redonné un souffle à l'espace pour le grand public, quoi.
Oui, mais c'est clairement un héros des temps modernes, quoi. C'est effectivement avoir une tête d'affiche entre guillemets comme Thomas Pesquet. Bah, effectivement, plus il va y avoir du relationnel avec le public, plus le public va s'investir aussi dans les projets, va vouloir les suivre. Enfin, je veux dire, il y a des applis qui te permettent de suivre l'ISS pour savoir si elle passe au-dessus de ta tête, etc. Donc tu vas être dans ton jardin avec tes mots et dire « Ah, petit point, là, c'est l'ISS, fais coucou à Thomas Pesquet !» Voilà, c'est assez marrant. Il y a plein de moyens maintenant de nous rendre l'espace accessible, même si il y a très peu de chances que dans notre vie, on puisse, nous, en tant que citoyen lambda, aller dans l'espace, ça nous permet quand même de rendre toutes ces expériences ou toutes ces aventures beaucoup plus accessibles que quand nous, on était gamins, qu'on voyait les décollages des différentes navettes, mais que derrière, on ne savait pas trop ce qui se passait, quoi.
Mm-hmm. Il a d'ailleurs parlé aussi de son expérience avec les blogs qu'il a fait avec des collèges, en fait. On pouvait inscrire les écoles primaires, peut-être, son école pour pouvoir faire une expérience à la fois sur Terre et puis dans la station. Enfin, c'est vraiment ça, c'est une super idée.
Ah bah ouais, le côté pédagogique, là, pour le coup, c'est super intéressant.
Alors, dans les questions, il a parlé un petit peu de quelles étaient les bonnes compétences à avoir pour être astronaute. Lui, il est pilote et ingénieur. Donc, c'est un peu le classique, j'ai envie de dire, d'être pilote. Mais il disait, en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont scientifiques et tout. Et donc, c'est plus forcément obligatoire d'être pilote. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de savoir prendre des décisions dans un cas de risque vital. Il disait ça peut être quelqu'un qui travaille par exemple sur une plateforme pétrolière ou dans des...
C'est très Armageddon, pardon.
Ouais, exactement, mais c'est vrai. Voilà, il faut que ce soit des gens finalement qui aient des responsabilités un petit peu vitales, un bateau, voilà, quelqu'un qui travaille dans un sous-marin, quelqu'un qui travaille dans des conditions... difficile et où il faut une prise de décision rapide avec de grosses conséquences pour devenir spationaute. Voilà. Donc si l'aventure vous tente, vous savez quelles compétences il faut développer. Il y a eu une question aussi un petit peu privée Non, il y a quelqu'un qui lui a demandé « Mais comment ça se passe le sexe là-haut ?» Alors, c'est un peu osé, hein. Non, mais il a dit bah, « C'est comme les sous-mariniers, hein, voilà, on s'en passe, et puis c'est tout. » Il n'a pas vraiment répondu à la question.
Bon, en même temps, soit il est marié, donc...
voilà, je ne me rappelle pas.
Il me semble qu'il... il me semble qu'il a une compagne sur Terre, justement, et que du coup, ça aurait été malvenu, tu vois, de répondre à la question derrière la femme. Ah, c'est quoi là-haut?
Bref. Oui, bien sûr. Ouais.
Et du coup, à part la conférence de Thomas Pesquet, tu as pu assister à, par exemple, celle sur Artemis ou d'autres conférences. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur journée grand public de l'IAC?
La conférence suivante, c'était sur Space and Imagination, donc imagination à l'espace. Et moi, j'avais vraiment envie de suivre cette conférence aussi parce qu'il y avait Marion Montaigne qui a écrit « Tu mourras moins bête » et « Dans la combi » de Thomas Pesquet.
D'ailleurs, « Tu mourras moins bête », c'est vraiment une série de BD qu'on vous recommande parce que c'est hilarant.
Ah, c'est génial. C'est de la science, mais... pris à la dérision pour t'apprendre quelque chose. Enfin, c'est vraiment génial.
Avec le professeur Moustache. C'est vraiment très, très bon. Faut pas hésiter à aller feuilleter ce que fait Marion Montaigne. C'est vraiment très chouette. Enfin, j'ai plus d'exemples en tête, mais je me souviens avoir beaucoup rigolé en lisant ces BD.
Si je peux donner un exemple dont je me rappelle, je sais que, par exemple, elle dit que quand dans un film, on voit les héros qui font... avec les grosses mitraillettes, c'est pas possible parce que vu le recul de ces armes-là, en fait, juste, ils se feraient arracher les bras. Voilà. En tout cas, si vous connaissez pas, vous pouvez courir en librairie. Et si vous avez peur de courir en librairie, parce que quand même, vous vous dites, c'est bien, les filles, elles me disent ça, mais bon, je voudrais quand même un peu tester. Vous pouvez chercher. Elle a un blog aussi. Au tout début, elle faisait des petits blogs à l'ancien temps. Et donc, justement, alors c'est drôle parce qu'elle raconte comment elle s'est retrouvée à faire dans la combi de Thomas Pesquet. Et elle dit, en fait, dans son blog, il y en avait un qui parlait d'espace. Et puis, dans la vie à l'ISS, mais genre, c'était une grosse parodie. Donc, en fait, il y avait des gens qui vomissaient absolument partout. Et Thomas Pesquet avait posté un truc marqué « Ouais, c'est presque comme ça, en fait. » Et elle n'a pas fait gaffe, quoi. Elle n'a pas vu que c'était Thomas Pesquet. Et il y a quelqu'un après qui lui a dit « Mais au fait, t'as toujours pas répondu à notre astronaute. » Hein? Quoi? Qui? Donc, voilà. Du coup, elle a commencé à regarder un peu ce qu'il avait fait. Et puis, elle s'est dit « Tiens, ça pourrait être intéressant d'écrire à propos de Thomas Pesquet. » Et ouais, dans la combi de Thomas Pesquet, ça explique vraiment tout, en fait, comment il fait son entraînement avant de partir, comment il part, comment c'est là-bas. Enfin, c'est très bien aussi. Alors, j'ai fait aussi, je me suis fait plaisir. J'ai posé une question.
Forcément.
Donc, en fait, Professeur Moustache, dans la BD, c'est une femme. Enfin... elle est genrée femme, et puis en fait, quand ça a été adapté sur Arte, c'est l'excellent François Morel qui fait la voix du professeur Moustache. Du coup, je lui ai dit, mais du coup, est-ce que tu vas pouvoir remettre un peu des femmes dans tes prochaines BD? Donc, il m'a dit, bon, la prochaine, pas beaucoup, mais parce que c'est sur les dinosaures et qu'elle n'a pas interviewé beaucoup de paléontologues femmes, mais que. Voilà, dans la combi de Thomas Pesquet, elle avait eu beaucoup de scientifiques femmes, donc il y en a, c'est quand même assez bien équilibré.
D'accord.
Voilà.
Ça va.
Non, mais il y avait aussi, Jean-François Clairvoy qui nous a parlé aussi du fait que qui est un astronaute, hein, que l'imaginaire, en fait, ça l'a aussi influencé lui à devenir astronaute. Il nous a parlé du film Gravity aussi. Il nous a dit que d'un point de vue sensoriel, c'était vraiment très proche. Voilà, si vous voulez avoir une bonne idée, le film Gravity, a priori, c'est pas mal. Et puis qu'il adorait Star Trek aussi quand il était jeune. Voilà, comme quoi, hein, ça peut arriver à tout le monde. On avait aussi des gens de la Cinémathèque française qui nous ont dit qu'ils sont en train d'ouvrir une expo permanente ou un musée sur Méliès. Du coup, ils nous ont passé aussi le film de Méliès qui va vers la Lune. Donc voilà, ils nous ont parlé aussi un peu de cet héritage sur finalement tous les films space opéra. Quelque part, ils descendent un peu de ce film-là, qui a presque inventé les effets spéciaux, en tout cas.
Effets spéciaux. Il est quand même bien à la base quand même de. Ah bah c'est effets spéciaux, il a énormément expérimenté.
C'est ça.
Avec le médium cinéma à ses débuts.
C'était vraiment un pionnier. Donc, il nous disait aussi, par contre, le mauvais côté, c'est que, à l'époque, les droits d'auteur, c'était pas encore très répandu. Donc, en fait, il a pas touché tant que ça par rapport à ses films. Ils ont été copiés, recopiés, diffusés dans des salles sans son autorisation, enfin, sans qu'il l'envoie un sou, quoi. Donc, à la fin, il était un peu écœuré par ce système, quoi. Donc, c'est bien, ça montre aussi comment les choses évoluent dans le bon sens, des fois, je trouve. Parce qu'on n'y pense pas, en fait. Maintenant, il y a les droits d'auteur, on n'y réfléchit même pas. On achète notre DVD, on paye notre abonnement à, je sais pas, Disney+, ou quoi. Et en fait,
au hasard.
Au hasard. Et en fait, à la fin, ça revient quand même un peu au créateur, et heureusement, quoi. Et c'est bien, parce que sinon, la création, comment elle peut vivre sans...
C'est ce qui est difficile de faire comprendre quand même à beaucoup de gens, notamment quand tu partages des photos sur Internet, des fan art, ne serait-ce que quand tu partages du fan art, la moindre des choses, c'est de créditer la personne, quoi. Que ça revienne, au moins que ça fasse connaître la bonne personne, et puis voilà, c'est pas... On a l'impression que tout est gratuit sur Internet, mais c'est pas le cas.
C'est
le cas, il y a quand même un copyright, même s'il y a une utilisation libre qui peut être faite d'illustrations, de sons, de vidéos, d'images, etc. Il y a quand même une artiste derrière qui doit être à minima créditée, voire rémunérée pour son travail.
Oui, c'était... c'est vrai que comme tout est... Comment dire ? À disposition sur Internet... c'est pas toujours évident que les auteurs originels soient crédités correctement, voire rémunérés correctement quand c'est possible. Et il peut y avoir aussi des copies assez grossières. Il y avait aussi Clémence Dargent qui fait la série OVNI sur Canal+. Alors moi, je connaissais pas parce que j'ai pas Canal.
Je ne connais pas non plus. Non, j'ai pas Canal non plus. Enfin, j'ai plus depuis un certain nombre d'années.
C'est une série comique, en fait, sur la branche du CNES qui étudie les ovnis. Et, en fait, c'est une branche qui existe pour de vrai, hein, qui a été créée dans les années 70. Pour justement, en fait, en gros, si demain tu vois un ballon sonde... dehors et que tu ne sais pas ce que c'est, t'appelles, tu dis voilà, j'ai vu un truc bizarre, et eux ils font une enquête derrière pour savoir est-ce que c'était un ballon, est-ce que c'était un avion, est-ce que c'est normal. Voilà, c'est une série qui reste comique avec des ressorts sur les équipes, sur le CNES où ils ont mis tout le monde en très 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 sérieux, et puis cette équipe-là, ils ont mis tout le monde un peu en mode très, c'est un peu les barjots du CNES, quoi. Franchement, ça m'a donné envie quand elle en a parlé, donc
D'accord.
Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu et que vous avez aimé.
Ah oui, clairement, hein. Faites-moi un retour, qu'on sèche si c'est intéressant, si ça vaut le coup.
En tout cas, elle a bien vendu. Ensuite, il y avait une conférence sur espace et société. Ça tournait beaucoup sur le fait que aujourd'hui le GIEC, en fait, la plupart de leurs données, ils utilisent en fait des données spatiales. Ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on ne serait pas capable de connaître notre Terre comme on la connaît si on n'avait pas l'exploration spatiale. Donc c'était essentiellement là-dessus. C'était très intéressant aussi. Il y avait Claudie Lignoret aussi. C'était très bien, mais je ne vais pas m'étaler. La dernière conférence, c'était les routes du cosmos. Oui, et alors là, on a pas mal parlé d'Artemis, parce qu'il y avait Mathias Meurer, donc qui est un peu le Thomas Pesquet allemand.
Hein.
On va dire ça comme ça. Non, non, mais c'est un astronaute aussi de l'ESA, allemand. Et il parle super bien français.
De toute façon, ils sont quand même sacrément bilingues. Hein. Thomas Pesquet, je crois qu'il parle 6 langues couramment. Enfin,
oui, c'est oui.
Plus que bilingue. Hein.
Ils sont tous multilingues. Alors, de toute façon, en général, ils maîtrisent l'anglais, ils sont bien obligés. Souvent le russe, parce que Thomas Pesquet, par exemple, il est parti avec un Soyuz. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est une des questions que j'ai oublié de. De raconter, ça c'est pas mal. On lui a posé la question, c'est qu'est-ce qu'il l'avait préféré entre partir en Soyuz ou partir en Crew Dragon de chez SpaceX. Et il disait, alors, Soyuz c'est un peu oldy, c'est tout manuel, et c'est super serré, il avait les genoux contre la tête presque. Mais il y a un peu deux espaces. Du coup, il dit, ce qui est pratique, c'est que s'il y a jamais un petit besoin, bah, vous êtes tranquille, quoi. Alors que le Crew Dragon, c'est un open space, quoi. Vous voyez ? Donc, ils avaient un petit rideau, mais c'est tout. mais voilà, il a dit, quand même, le Crew Dragon, c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc, il va voter pour le Crew Dragon. C'est pas la même génération non plus. Hein.
Clairement, les Soyuz, j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça.
C'est mais tu as toujours connu ça.
C'est l'antiquité de l'espace, tu sais, genre c'est la petite R5 de l'espace.
C'est ça.
Un truc qui est increvable.
Ah bah clairement, enfin, ça fait partie des petits lanceurs aujourd'hui par rapport au monstre du CLS d'Artemis là, qui est sur le pas de tir, même par rapport à Ariane 5, il est beaucoup plus petit. Enfin, c'est vraiment un lanceur entre Vega et Ariane 5 au niveau de la taille. Donc, mais c'est diablement efficace.
C'est quand même le
lanceur le plus sûr, hein, en fait.
Mais c'est pour ça qu'il continue à l'utiliser. Donc, si on revient à Artemis, justement, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que c'est que cette fameuse Artemis, qui n'est pas, pour le coup, la déesse de la chasse, mais bien un lanceur.
Et après Apollo, on a Artemis.
Ah oui, bon, on reste de toute façon... le ciel, est quand même, on a quand même des constellations entières nommées d'après la mythologie grecque. Donc, rester dans ce côté mythologique, c'est tout à fait cohérent pour le spatial européen, en tout cas.
Oui, puis américain, du coup. Artemis, c'est les Américains et les Européens qui sont mis d'accord pour faire un nouveau programme d'exploration de la Lune, avec pour but de faire un peu la bascule vers Mars après. Donc là, celui qui est sur le pas de tir, enfin, il y est peut-être plus, il est peut-être dans le bâtiment là, aujourd'hui, mais il devait être lancé aujourd'hui, mais il y a eu un problème avec une tempête, je crois.
Oui, de ce que j'ai compris, la prochaine fenêtre de tir, c'est pas avant le 12 novembre. Donc, il faut vraiment pas être pressé. Heureusement qu'il n'y a pas de gens à ravitailler sur la Lune, hein, parce que là, ce serait quand même un peu craignos. Mais c'est vrai que ça a l'air très On est encore dans du truc, on est loin du Faucon Millenium qui décolle de Mos Eisley les doigts dans le nez, quoi. C'est vraiment, c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est alors, soumis aux aléas météorologiques. Bon, ça paraît assez logique d'un point de vue technologique, mais enfin, qu'il y ait autant de petits bugs. Enfin, tu dis sur des engins comme ça paraît alors pas inadmissible, mais t'imagines pas. Et en fait, et puis après, t'as des gens comme justement Thomas Pesquet dans ce côté pédagogique qui vont t'expliquer. Non, mais en fait, c'est pas le premier à être reporté comme ça plusieurs fois. C'est arrivé à, je sais plus, je retiens pas les noms, mais il dit c'est arrivé en telle année à tel machin, c'est arrivé en telle année à tel truc. Donc c'est le spatial. Il y a une part d'aléatoire. C'est comme ça.
Mais en fait, il y a une part d'aléatoire pour ne pas avoir une part d'aléatoire. Enfin, on veut tellement être sûr que la mission réussisse que s'il y a un truc, un minuscule truc qui engendre un risque, c'est reporté, c'est annulé, c'est... Voilà. Donc là, en fait, c'est reporté vraiment beaucoup plus loin aussi parce que ils avaient un temps limité sur le pas de tir et après il fallait qu'il la reconfigure en partie.
Oui, parce qu'en plus pendant ce temps-là, enfin, je veux dire, la lune elle se balade. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas grave.
Mais même les réservoirs, t'as le carburant qui commence à s'exfiltrer petit à petit parce que l'hydrogène c'est hyper léger, c'est hyper volatile. Enfin, voilà, t'as plein de raisons qui font que tu peux avoir besoin de refaire un check complet du lanceur si t'as raté ta première fenêtre, quoi. Enfin, c'est pas inquiétant pour Artemis.
Mais voilà, c'est vrai que quand t'as pas ces infos-là au départ, on dit il rate la fenêtre de tir parce qu'il y a une tempête. Bon, c'est compréhensible par le commun des mortels. Et quand on dit il y a un petit truc technique et tout, tu dis quand même sur des machins à je sais pas combien de millions de dollars, ils auraient pu quand même resserrer la petite vis avant, quoi. Et quand t'es pas dans le métier et que t'as les infos qui sont assez brèves, puisque si tu regardes genre France Info, Le Monde, des trucs comme ça, ils vont dire c'est reporté parce qu'il y a eu une petite truc technique. T'as pas forcément tous les tenants et aboutissants, tu vas dire quand même, ils font quoi des milliards de subventions, etc. Enfin, tu comprends qu'après, tu puisses un peu râler, entre guillemets. Et après, c'est bien d'avoir aussi ces explications, de dire ça fait partie en fait du jeu et que il vaut mieux effectivement prendre le temps d'aller resserrer le petit boulon là-bas plutôt que de risquer. Que ça explose, que ça parte pas, que ça foire, très clairement.
Et donc, le premier vol, ça va être un vol automatique, c'est juste pour vérifier que ça marche bien. Mais après, il va y avoir vraiment des astronautes dedans. Hein. Et d'ailleurs, c'est prévu qu'on ait des Européens dans ces missions-là. Donc Thomas Pesquet et Mathias Maurer sont sur les rangs avec Samantha Cristoforetti qui est aussi
la commandante actuellement.
Ah ouais, elle vient juste de devenir commandante de l'ISS, qui nous a fait un petit coucou aussi enregistré, qui parle encore super bien français, enfin comme d'habitude. Donc voilà, Mathias Maurer, il nous en a un petit peu parlé. Je vous mettrai des photos. Il nous a montré un peu des photos en mode un peu Tintin de la future base. Parce que le but, c'est vraiment de réussir à poser des bases un peu sur la Lune pour pouvoir après redécoller plus facilement vers Mars. Donc la conquête spatiale est repartie, vraiment, vraiment, vraiment.
C'est cool, ça fait plaisir à voir justement. Déjà qu'on réinvestisse quelque chose qui est assez proche de nous, et puis de voir l'idée, pourquoi pas Mars. Se faire d'illusions, c'est pas quelque chose qu'on verra de nous dans notre vie, mais c'est plutôt souhaite d'avoir. D'avoir ces envies de large, et puis finalement, on n'est pas très loin. Enfin, on va petit à petit rejoindre la fiction. Donc, je pense à Seul sur Mars, par exemple, des choses comme ça.
Oui, mais c'est le surnom.
À Space Force, qui est là. Je sais pas si t'as vu cette série sur Netflix.
Ah non, j'ai pas vu celle-là.
T'as pas vu Space Force? C'est avec. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Il joue dans The Office. C'est le personnage principal dans The Office. Et il joue le rôle d'un général américain qui est en charge de la Space Force. Donc, comme son nom l'indique, la division spatiale de l'armée américaine. Et le but, c'est de retourner sur la Lune, etc. Mais il y a la course avec les Chinois, etc. Et c'est assez humoristique, c'est assez sympa. Les personnages sont clichés, mais les t'aimes bien. Par contre, ce qui est dommage, c'est que Netflix a annulé après la deuxième saison. Donc, ça s'arrête pas trop sur un cliffhanger, ça va, mais ça s'arrête. C'est dommage. C'était plutôt cool. Et puis, du coup, assez réaliste, puisque ça pourrait se produire là, maintenant, tout de suite, si on est sur des technologies vraiment actuelles. pas du tout sur des trucs genre vol hyperespace, etc. C'était vraiment. On n'est pas aussi abouti, par exemple, que. J'allais dire Inception, mais parce que c'est pas mal réalisé, ça.
Oui.
J'ai le nom sur le bout de la langue.
Interstellar.
Voilà, Interstellar.
Non, mais.
Où là, on était sur un futur relativement proche. Là, dans Space Force, t'es quand même sur un truc, ça pourrait se passer là maintenant.
Ouais, après, Interstellar, le lanceur initial est plutôt réaliste quand ils partent de la Terre. Après, ils partent d'une planète qui a une plus grosse gravité avec juste leur petit vaisseau. C'est plus chaud. Bon, bref, on n'est pas là pour faire une critique scientifique.
Non, mais
parce que là, on va être parti. Juste du coup, tant que j'y pense, il y a aussi For All Mankind là, sur Apple, où ils parlent pas mal de l'ISS, parce qu'en fait, du coup, on suit la NASA, et puis la directrice de la NASA, elle y va chaque année aussi. Mais c'est aussi assez réaliste. Ça se passe aussi de nos jours, voire même avant, puisque c'est une uchronie depuis les années 70 jusqu'où là je suis aux années 80 par là.
Monsieur, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais effectivement, j'en ai entendu que du bien, et notamment par les aficionados de l'espace.
Ouais, c'est vraiment une très bonne série. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ils nous ont parlé aussi dans ce dernier panel d'Art qui vient juste d'arriver finalement sur son petit bout de caillou. Donc, Dart, c'est juste un petit. Je sais pas comment dire. Une petite caméra qui arrive. Pouf. Et le but, c'est d'avoir aussi Hera. Qui a un deuxième appareil qui lui est européen alors que Dart c'est américain, qui va aller regarder comment ça s'est écrasé, le but étant de comprendre la dynamique des flux sur un astéroïde.
Donc en fait le but ça a été d'aller de lancer une caméra pour aller la crasher sur un astéroïde.
Oui, oui.
C'est particulier.
Ouais, du coup, ils nous ont raconté une petite anecdote savoureuse, parce qu'en fait, quand ils avaient créé le projet, au tout début, ça devait s'appeler, je vais y retrouver. Enfin, le truc qui devait arriver et s'exploser sur le truc, devait s'appeler Hidalgo. Mais en référence à... mince. J'avais pas... Don Quichotte, je crois.
D'accord.
Donc, rien à voir. Mais du coup, il dit... heureusement qu'on a changé, parce que... Voilà. Si on avait dit que Hidalgo, c'était le truc qui devait se cracher sur les astéroïdes,
ça aurait été plus long. Ouais, c'est tout de suite, ça donne une petite couleur politique.
Ouais, c'était pour l'anecdote savoureuse. Du coup, on a parlé aussi un petit peu politique, enfin, dans les questions-réponses. Voilà, forcément, comment ça se passe actuellement avec les Russes. Donc, il y a ExoMars, en fait, il devait être lancé le mois prochain. Et c'est eux qui faisaient l'atterrisseur. Et du coup, 6 ans de retard pour faire un atterrisseur européen.
Voilà. Ouais, comme quoi la coopération internationale, elle a quand même cette...
Alors, ouais, Mathias Meurer, elle disait, dans l'ISS, ça se passe toujours bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres projets, bah, c'est difficile. Enfin, à Kourou, il n'y a plus de Soyuz non plus. Enfin, voilà. Il y a quand même des choses qui sont en suspens. Voilà. Alors que jusque-là, l'espace, c'est vrai que normalement, c'est plutôt un endroit depuis pas mal d'années, depuis la fin de la course à l'espace, on va dire. C'est quand même plutôt un endroit très international, d'ailleurs. Quand je suis arrivée, juste avant Thomas Pesquet, je suis arrivée, en fait, il y avait Claudie Aigneret avec Jean-Pierre Aigneret, Jean-François Clairvoy, qui étaient en train de dire combien l'espace, c'était de la coopération internationale, que ça parlait de toutes les langues, que voilà, il y avait les spationautes, les astronautes, les cosmonautes, et tout le monde. Et maintenant, les Chinois, et maintenant, les Indiens. Enfin, voilà, vraiment, tout le monde est réuni, finalement, dans cette station spatiale internationale. Et on espère que ça va rester le plus longtemps possible, quoi.
Après, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as des technologies qui sont propriétaires, entre guillemets, de certaines nations, alors que l'ISS, c'est quelque chose qui a été construit vraiment à la base internationalement, contrairement à, on parlait des lanceurs Soyuz, etc., qui sont vraiment propriétaires russes. C'est vrai qu'il n'y a plus hein, les navettes type Atlantis, Discovery, pour faire le balancier côté NASA, et qui, ça fait quand même un certain nombre d'années, qui se reposent sur les Soyuz.
Bah aujourd'hui, ils ont le Crew Dragon par SpaceX, mais ils ont pas de solution étatique.
Ou de solution qui soit véritablement internationale, comme l'ISS, en fait. Il n'y a pas un lanceur dont la technologie appartient à l'humanité au global.
Ah non, c'est
quelque chose, du coup, qui va être réfléchi par la suite, justement, pour peut-être pas compromettre trop la conquête spatiale en fonction de la géopolitique terrestre, on va dire. Parce que c'est des choses qui sont déjà en réflexion de leur part.
Ah, bah, enfin,
j'imagine. Hein, moi, j'y pense. J'imagine que les grands pontes à l'ESA ou à la NASA, ils ont déjà réfléchi.
Après, il y a la souveraineté de chaque pays, quoi. Voilà, donc c'était ma petite journée, les étoiles plein les yeux.
Ouais, c'est sympa, on aurait bien kiffé pouvoir y aller. Hein.
Bon, après, voilà, comme je disais, ça tourne, hein, donc je sais pas quand est-ce que ça va revenir en France.
Comme tu disais, c'est à Milan dans 2 ans, donc c'est pas non plus...
C'est pas très loin.
C'est pas le bout du monde, Milan, voilà, pour... Ils font une journée grand public à chaque fois, ou là, c'était exceptionnel à Paris hein.
Ah bah, pour moi, c'était exceptionnel. Hein. Moi, j'ai compris que c'était parce que c'était Space for All, le thème. Mais je me dis, si ça a bien marché, ils vont peut-être le refaire. Hein, parce que ils ont tout intérêt à justement diffuser l'espace. C'est gagnant pour tout le monde. Les gens sont contents d'y aller. Et en même temps, eux, ils expliquent aussi pourquoi est-ce qu'ils font ça. Enfin, ils nous ont dit aussi ça. Ils nous ont dit, par exemple, l'ESA, au tout début, les gens de l'ESA, qu'est-ce qu'ils passaient leur temps à faire ? Enfin, les astronautes, qu'est-ce qu'ils passaient leur temps à faire ? C'était à expliquer aux États comme quoi ce qu'ils avaient investi dans l'ESA, c'était rentable. En fait, le but premier, c'était... leur communication, c'était avant tout de dire aux États, oui, c'est bien de mettre des sous. C'est triste, mais c'est comme ça. À un moment donné, il faut aussi être sûr que les États continuent à mettre au pot. Et aujourd'hui, en fait, ils essayent un maximum d'embarquer le grand public. Donc voilà, cette nouvelle génération, Thomas Pesquet, Mathias Meurer, Samantha Cristoforetti... Ils essayent de communiquer vers le grand public Alors, en partie aussi parce que bah, c'est le grand public qui va voter pour les gens qui vont voter pour le budget qui va faire l'ESA. Hein. Ça, c'est faut être honnête. Hein. Mais aussi parce que voilà, c'est important que le grand public sache bah, à quoi ça sert finalement les sous qu'ils ont donnés. Parce que bah, c'est nos impôts finalement qui financent tout ça.
Ça permet de nous faire rêver aussi avec eux. Enfin, je veux dire, c'est quand même la conquête spatiale, c'est quelque chose de complètement intergénérationnel. Enfin, je veux dire, tu revois les images d'archives des gens devant leur poste télé en juillet 69. Voilà, il y a quelque chose de très fédérateur. Et puis, c'est que tu aies 3 ans ou 90, tu peux avoir la même fascination. Enfin, ça exerce toujours la même fascination sur l'enfant que tu étais comme sur l'adulte que tu es aujourd'hui, hein, très clairement. Donc oui, ce genre d'événement, c'est fédérateur aussi. Puis c'est bien d'ouvrir au grand public justement pour partager et puis pour ouvrir, quoi. Enfin, je veux dire, alors c'est dommage qu'ils aient fait ça en semaine quelque part. Tu vois, ils auraient fait ça sur un samedi ou un dimanche. Bah, tu pouvais toucher plus de gens déjà, parce que pas obligé de poser une journée pour pouvoir y aller. Et puis, bah, tu peux toucher aussi le public de province, parce que bah, clairement, en faisant ça le mercredi, bah, tu vas toucher un public parisien, ou tu vas toucher un public de professionnels. Je pense tu vois, aux gens qui bossent chez Dassault, chez Ariane, par exemple à Bordeaux, qui vont remonter sur, ou Toulouse, qui vont remonter sur Paris pour la journée. Là, il y a un côté bon, c'est aussi pour le boulot, etc. Mais toi, en tant que touriste de l'espace, bah, tu poses pas une journée juste pour aller à un truc de conférence, quoi. C'est enfin plus difficilement.
Voilà, non,
alors, vraiment hyper fan, etc.
J'ai pas fait un petit sondage dans la salle, hein, mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui, comme moi, sont un peu mordus de l'espace quand on posait une journée, ou des enseignants qui ne travaillaient pas, ou il y avait aussi des animations pour les étudiants. Donc, des fois, il y a des gens qui sont venus avec des classes d'étudiants, en fait. Et je pense qu'il y avait aussi des fois des familles, en fait, des gens qui sont venus à la conférence toute la semaine, des professionnels, et qui ont dit à leur famille, bah, mercredi, si vous voulez, vous pouvez venir. Voilà, quelqu'un qui vient, je sais pas, d'Allemagne ou quoi, et qui a dit, les autres jours, vous visitez Paris, et puis ce jour-là, si vous voulez, vous pouvez venir. Mais ceci dit, les conférences étaient en français. Mais il y avait la possibilité d'avoir la traduction en anglais sur une application. Donc c'était vraiment... C'est bien fait, voilà. C'était à la fois en français, parce que on est en France, c'est avant tout un public français, et tout le monde a joué le jeu, voilà, même les acteurs étrangers. Et en même temps, c'était accessible même pour les gens qui parlaient pas français. Donc, en fait, oui, il y avait aussi des étrangers dans la salle. Et je pense qu'il y avait aussi, ouais, même des professionnels qui, des fois, se sont fait plaisir et sont venus voir une des conférences avec un astronaute, parce que pour le plaisir d'un astronaute, parce que même quand on est dans le métier, c'est toujours un plaisir.
Ouais, c'est clair. Et puis le casting était quand même alléchant. Hein. On rappelle qu'il y avait... Claudie Aigneret, Jean-Pierre Aigneret, il y avait Jean-François Clairvoix, il y avait Thomas Pesquet, et alors, c'est Jean-Loup Chrétien.
Oui,
j'arrive pas à lire mes notes, vous m'excuserez, hein, j'écris très très mal. Voilà, donc des astronautes français, alors actuels comme Thomas Pesquet, ou plutôt années 80-90 pour Chrétien et Aigneret, etc. Donc c'est quand même voilà, des noms avec qui on a grandi. Voilà, ça. Ouais, c'est alléchant quand même. Le programme des conférences, c'est plutôt sympa. Et puis du coup, bah, merci d'avoir été un peu notre envoyé spécial sur place pour pouvoir nous faire un petit retour comme ça de cet événement qui était quand même assez exceptionnel, hein, puisqu'encore une fois, hein, c'est assez rare quand même que ça soit à Paris. Donc c'était une grande chance. Et puis, encore plus rare que ça soit ouvert
au public,
au grand public.
Après, voilà. Je pense que c'était... c'était aussi intéressant, comment les autres jours, hein, je pense qu'il y avait, c'est pas du tout le même genre de contenu, c'est vraiment sur les nouveautés du spatial. Mais c'était quand même une bonne journée de spatial, les étoiles, voilà, dans les yeux.
Ah oui, on les voit, les étoiles dans tes yeux.
Ah, c'est toujours.
Tu vas nous rendre très jalouse.
Non, mais j'étais en train de me dire, finalement, une journée publique à la Star Wars Celebration, ce serait une mauvaise idée, en fait.
C'est bien essayé, bien essayé.
Non, ça marche pas comme ça.
Non.
Non, mais... Je pensais aussi au Bourget où c'est le week-end, hein, les journées pour public. Alors c'est payant, mais il y a des démonstrations et tout, donc c'est sympa. Donc voilà, petite idée pour l'IAC. Maintenant, il faut toujours faire des journées publiques le week-end. Merci.
Ouais. Je vote pour dès demain. Non, c'est clair, c'est des belles occasions. Voilà. Tant mieux si tu as pu en profiter. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir partagé ton expérience. Je t'en veux toujours d'avoir vu Thomas Pesquet. Je suis extrêmement jalouse. Voilà, après ça, on arrête l'enregistrement et je ne te parle plus.
Bon, ben, vous pouvez vous désabonner.
Non, c'est le petit bouton en bas. Non, attends, alors donne pas des idées, on a déjà pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne, hein. On va pas...
Non, repostez cette pas. Vidéo sur tout le monde.
Voilà, mais écoute, en tout cas, Céline, je vais pas dire c'était un plaisir de t'avoir, parce qu'en fait, on anime tout le temps des émissions ensemble, donc voilà, mais c'était marrant, voilà, que tu te prêtes aussi aux yeux de questions-réponses par rapport à cette conférence que j'ai suivie, moi, bah, à travers toi, en fait, les images que tu m'envoyais. Voilà,
bah, je sais que
frustration totale.
Je sais que dans notre public, il y a quand même pas mal de gens qui sont mordis d'espace, donc...
Voilà, un petit coucou à Circe qui se reconnaîtra, hein. Et d'autres. Donc, voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à y aller. Céline, elle est juste là. Voilà. Et bien, sur ce, et on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis, je pense qu'on se retrouvera assez prochainement pour parler de Star Wars et notamment des sorties chez Pocket. Le programme des prochaines sorties, ça viendra dans une dizaine de jours à peu près. On tease. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de la partager sur nos réseaux sociaux.
À bientôt.
À très bientôt.